Voilà. Donc le livre de Job nous enseigne partie 2, partie 3. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une victoire à remporter face à la tentation de baisser les bras, de tout laisser tomber. Oui, on a vu qu'il y a plus précieux, il y a davantage que juste une vie épargnée par les chagrins. Et ce davantage, c'est ce que Job a acquis. Il a fait l'acquisition de ce davantage en Dieu que juste l'attente d'une vie où la souffrance serait absente. Juste une vie épargnée par les chagrins et Dieu l'a amené à plus, à bien plus. Mais il y a une victoire à remporter. Et nous sommes appelés à la remporter, cette même victoire que Job a eue. Et nous avions terminé la dernière fois en disant que cette victoire, elle ne se fait pas sans déstabilisation intérieure et sans lutte. Et c'est pourquoi nous ouvrons la parole au chapitre 3 de Job. Un chapitre magnifique et terrible. Un chapitre d'une beauté poétique qui nous touche. Un chapitre dont les échos de désespoir résonnent certainement en nous. Et ce matin, nous avons besoin de nous rendre compte que le désespoir de Job peut être le nôtre, peut l'avoir été, peut le devenir. Aujourd'hui, nous luttons contre le virus du Covid qui a fait 40 000 morts, je crois, en France. Mais il est bon de rappeler que chaque année en France, 9 000 personnes se suicident. Et que chaque année en France, il y a 90 000 tentatives de suicide. C'est énorme. Et aujourd'hui, nous sommes préoccupés par un virus, mais il y a dans nos cœurs, dans le cœur de l'être humain, des moments de désespoir qui font que on ne voit pas d'espoir, on ne voit pas de lumière, on ne voit pas d'issue. Et c'est un petit peu ce que Job est en train de vivre. Et nous voulons ce matin parler de cela, parce que Job était un homme qui aimait Dieu, qui était intègre, qui était droit, qui était juste. Et pourtant, ses pensées le touchent, le frappent à un moment de sa vie. Et il en va de même pour chacun de nous. Alors, lisons Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu, ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point soucié dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende en vain la lumière, et qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore. car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre, et la vie à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort, et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Voilà un chapitre où Job préférerait ne pas être né. Il dit, vu ce que ma vie est devenue, très honnêtement, j'aurais préféré, dit-il au verset 11, j'aurais préféré que ma mère fasse une fausse couche. Ou alors, à la rigueur, toujours verset 11, j'aurais préféré être mort-né, ou mort subit du nourrisson peut-être. Ou alors à la rigueur, verset 12, même si j'étais pas mort-né, mais en très bonne santé comme nourrisson, alors à la rigueur, j'aurais préféré que ma mère m'abandonne, qu'elle me dépose dans une poubelle ou dans la forêt, là, et puis que je meure tout seul dans mon coin. J'aurais bien préféré, vu ce que ma vie est devenue. Si vous reprenez le début de ce chapitre, vous trouverez tout un champ lexical du noir et des ténèbres. Au verset 4, les ténèbres. Que la lumière ne rayonne plus, que l'obscurité, l'ombre de la mort s'en empare. Les nuées, les noirs phénomènes, la nuit. Ces mots qui nous disent à nous que Job, là, c'est le cas de le dire, il broie du noir. Là, il est vraiment au fond du gouffre, à l'intérieur de lui-même. Il se dit, ma vie n'a pas de perspective, ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Je préférerais n'avoir pas existé. Et au stade où j'en suis aujourd'hui, puisque j'existe, au verset 21 et 22, il dit qu'il serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau, qu'il y espère en vain la mort et qu'il la convoite plus qu'un trésor. Ce sont vraiment des paroles fortes que de pouvoir en arriver à un point où on dit, finalement, moi j'aimerais bien mourir, j'attends ça, ça me ferait plaisir, j'en aurais de la joie parce que ça mettrait fin à mes souffrances. Ça mettrait fin à mes angoisses, ça mettrait fin au non-sens de mon existence. Il Peut-être qu'il nous est arrivé ou qu'il nous arrive, peut-être qu'il nous arrivera d'avoir des semblables pensées, de voir toute notre vie à un moment bousculée, effondrée, au point que on regrette la vie, on regrette l'existence, et on se dit la suite ne sert à rien d'être vécue. Job va continuer de l'exprimer au chapitre 6, par exemple, et au verset 11. Il dit « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine ?» Il dit « Je sais exactement que de toute façon, ma situation ne s'améliorera pas, ma fin, elle est certaine. » On dit souvent qu'après la pluie, il y a le soleil. Et bien après la pluie, il y aura la pluie, puis encore la pluie. Et donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'attendre. Ça ne sert à rien encore d'espérer. Au chapitre 7, Job, au verset 3, dit, donc chapitre 7, verset 3, « J'ai pour partage des mois de douleur, j'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me lèverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. » Mon corps se couvre de vers et d'une croûte terreuse, ma peau se crevasse et se dissout. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s'évanouissent, plus d'espérance. Souviens-toi que ma vie est un souffle, mes yeux ne reverront pas le bonheur. On peut tourner encore les pages et aller au chapitre 17. Job chapitre 17, verset 11. « Quoi, mes jours sont passés? Mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche, quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. » Nous sommes touchés quand nous lisons ces lignes, ce qu'exprime Job, cette détresse, cette absence d'horizon, plus de perspective de bonheur et des tas de projets qui sont réduits à néant. En Job 7, au verset 13, il exprime même qu'il n'a même pas de perspective de soulagement. Il n'en vient même pas à dire plus de perspective de bonheur, mais un petit peu de soulagement, un petit peu de répit, un petit peu d'allègement. Job 7,13, il dit « Quand je dis mon lit me soulagera, ma couche calmera mes douleurs. » C'est alors que tu m'effrayes par des songes, que tu m'épouvantes par des visions. Ah, je voudrais être étranglé. Je voudrais la mort plutôt que ses os. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. Il peut arriver que non seulement nous n'ayons plus de perspective, de projet, d'avenir, de soleil, mais qu'en plus, au sein de la souffrance et de la douleur, on ne voit même plus de perspective d'accalmie. un petit peu comme il le dit là, au moins si je me couche, je vais sur mon lit, peut-être, voilà, je vais avoir une accalmie. Eh bien, pas d'accalmie. Et il en vient à la conclusion que la mort est sa seule sortie, sa seule issue. Il est cerné de toutes parts et il ne voit pas de fenêtre quelque part. Il ne voit pas d'issue. Peut-être que nous ressentons cela. Peut-être que nous n'avons jamais ressenti cela, mais que nous le ressentirons un jour. Et on peut se dire, oui, mais moi je connais le Seigneur, je suis chrétien, ça ne devrait pas arriver aux chrétiens. Alors, regardons en Job au chapitre 4. Ce que les amis de Job lui disent, et justement, ils lui disent, Job 4, verset 3, « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité ?» Là, ses amis lui disent, mais attends, c'était toi qui encourageais les autres, c'était toi qui les réconfortais quand ils étaient désespérés, tu les fortifiais, tu étais là, tu avais des paroles pour eux. Puis finalement, maintenant que la détresse et le malheur frappent à ta porte à toi, eh ben, il n'y a plus personne, tu savais encourager les autres, mais alors toi, tu broies du noir complet et tu en es là. Et ils lui disent, mais pourtant, ta foi, ta piété, ça devrait te soutenir, ça devrait être suffisant pour être ton espérance. Et puis il se trouve que non. Et nous savons, par l'introduction du livre de Job, que Job était vraiment un homme intègre, au point que Dieu dit à Satan, est-ce qu'il y a quelqu'un sur terre qui soit comme mon serviteur Job? Il n'y en a pas un seul. Il est vraiment, vraiment. Ah, je le chéris, je l'aime. Sa piété, sa droiture, son cœur pour moi. Il a un cœur pour moi. Eh bien, Job, qui a un vrai cœur pour Dieu, en ayant été atteint par le deuil, par la maladie, par la perte de la réputation, par la perte de ses biens matériels, et surtout atteint par l'incompréhension de sa situation, par le non-sens des choses. Eh bien oui, on peut dire que c'est en tant que chrétien qui compte sur Dieu, qui est attaché à son Dieu, c'est en tant que chrétien que Job traverse ces moments-là. Et cela est normal que ça arrive. C'est normal. Quand on est frappé par des drames, par des catastrophes, par bien d'autres choses, ici, chez Job, ce sont des choses qui se voient de l'extérieur. Tout le monde est témoin des motifs de la souffrance de Job. Tout le monde voit sa maladie. Tout le monde a été à l'enterrement de ses enfants. Mais il y a des souffrances et il y a des drames qui ne se voient pas. Et il est normal de traverser des moments de dépression, de noirceur intérieure, et qui peuvent effectivement aboutir à des pensées morbides où la mort en réalité devient la seule issue et le seul refuge. Et Job l'exprime en disant, au moins si je vais au tombeau, là je serai en paix, là je souffrirai plus, là mon tourment va cesser, au moins c'est la fin de mes souffrances. Et effectivement, la mort, à ce moment-là, lui apparaît comme un soulagement, une accalmie, définitive certes, mais il dit au point où j'en suis, de toute façon, vu qu'il y a, je suis persuadé au fond de moi-même qu'il n'y aura pas de soleil après la pluie, au moins avoir cette paix, ce calme et cette tranquillité du séjour des morts. On peut en arriver à penser ça et nous devons vraiment avoir de l'amour, de l'amitié, de la compréhension pour les uns, pour les autres, lorsque nous sommes désespérés et que nous pouvons ressentir de telles choses. Et ne pas penser que ça ne doit pas arriver à des chrétiens. Ça arrive à des chrétiens et c'est normal. Alors, on va voir des petits détails dans la pensée de Job. Par exemple, au chapitre 29, nous voyons Job qui dit, Job 29, verset 2, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. » Ça, c'est fini. Ça, c'était avant. Et Job ne voit pas de perspective autre que celle-là. Il dit, moi, j'aimerais être comme avant, j'aimerais que rien n'ait changé, j'aimerais que ce qui m'est arrivé ne soit pas arrivé, j'aimerais retourner en arrière, et si je ne peux pas retourner en arrière, si je ne peux pas retrouver le passé, si je ne peux pas annuler ce qui s'est passé, finalement, la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Il y a un deuil et une acceptation, un cap à franchir, dire oui, c'est arrivé, il y a ça dans ma vie, et je vais vivre avec et aller au-delà. Et là, dans ce que Job exprime à ce moment-là, il dit non, moi, tout ce que je veux, c'est que je m'accroche à mon passé, parfait comme il était, bien comme il était, c'était peut-être pas tout parfait, mais au moins ça me convenait. Et si c'est pas ça, alors je veux rien d'autre. Parfois, Job pense autrement. Chapitre 9, verset 27. Parfois, Job a des moments où il se prend en main, on va dire, il veut se donner un coup de pied au derrière, comme on dit, puis il dit, bon allez, je vais me secouer, et allez, on va aller de l'avant, on va aller de l'avant. En Job 9, au verset 27, il dit, si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse, reprendre courage, et on dit, allez, ouais, ça c'est bien Job, vas-y, ça c'est bien, bien. Mais le verset 28 dit, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Il n'y arrive pas. Il y a des moments où il dit, allez, bon, c'est bon, je vais faire mon deuil, je vais accepter, je vais vivre avec, allez, je vais laisser ma tristesse, allez, on va repartir. Mais en fait, il ne trouve pas en lui-même la force et le ressort pour y parvenir. Il aimerait se prendre en main, il aimerait se relever moralement, mais il n'y arrive pas. Au chapitre 16, un autre aspect est évoqué. Job 16, verset 6, c'est là il s'agit de parler ou de se taire. Il dit, si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres? Et là, il est dans un dilemme. Il dit, oui, faut pas que, on me dit qu'il ne faut pas que je garde tout pour moi et que je renferme tous mes sentiments, tout ce que je pense. Et effectivement, le silence, si je me tais, ben, ça n'aide pas ma souffrance intérieure. Alors, je vais l'exprimer, je vais parler. Et c'est ce que Job fait. Mais il a le sentiment que, bien qu'il en parle, bien qu'il l'extériorise, bien qu'il verbalise, ça n'atténue pas. Et peut-être on se dit, mais tiens, moi, j'ai vu un psychologue, j'en ai parlé à des amis, à des frères et sœurs, et pourtant, c'est toujours là. Je n'ai pas l'impression que mes souffrances se soient calmées. Et du coup, on se dit, bah alors je suis dans un impasse, je suis dans une impasse. Puis Job en vient à quelque chose d'encore plus douloureux. C'est une fausse perception de Dieu. Et non seulement il ne voit pas de fenêtre au niveau de sa santé, au niveau de sa famille, au niveau de son état matériel, mais il ne voit même plus de fenêtre spirituelle. Il ne voit même plus Dieu comme quelqu'un qui peut se tenir à ses côtés, qui veut se tenir à ses côtés. Tout se trouble, tout est brouillé, et même dans sa conviction spirituelle, il n'y a plus de fenêtre. Et une fausse perception de Dieu chemine dans son esprit, ce qui l'abat encore plus. Chapitre 9, Job 9, verset 19. Déjà, il voit Dieu comme quelqu'un qui l'assaille, qui ne le laisse pas respirer, qui le rassasie d'amertume, verset 18, Job 9, 18. Et puis, il dit recourir à la force contre Dieu. Il dit, il est tout-puissant. À la justice, qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Et au verset 22, il continue, il dit qu'importe après tout, car j'ose le dire, il détruit l'innocent comme le coupable. Job dit de Dieu, il en vient à une compréhension de Dieu où il dit, mais finalement, c'est un Dieu qui, même si je suis innocent, il va me déclarer coupable et il va détruire l'innocent comme le coupable. Au verset 8, Job 10, verset 8, il exprime quelque chose de douloureux encore à propos de Dieu. Il dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'eau et de nerfs, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Voici néanmoins ce que tu cachais dans ton cœur. Voici, je le sais, ce que tu as résolu en toi-même. Et cette résolution qu'il pense que Dieu a, c'est de le détruire. Et il dit finalement, voilà la vision qu'il qu'il a maintenant de Dieu, c'est dire finalement, tu m'as formé, tu m'as créé, tu m'as façonné, tu m'as pris soin de moi, j'avais vraiment l'impression que tu tenais à mes côtés, tout ça. Mais enfin, en réalité, tu cachais quelque chose dans ton cœur. En fait, tu attendais le jour de ma chute, tu attendais le jour où tu allais vraiment révéler ton projet pour moi, et ton projet pour moi, c'était de me détruire. Job voit Dieu maintenant comme un Dieu de colère, qui ne pardonne pas l'iniquité. C'est le verset 14. Si je pèche, tu m'observes, tu ne pardonnes pas mon iniquité. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Tu me poursuis comme un lion, tu me frappes. Au chapitre 30, Job chapitre 30, et je cherche le passage. J'ai dû me tromper de passage. Un passage où Job en vient à la pensée, mais Dieu, en fait, il est cruel avec moi. C'est le verset, chapitre 30, verset 21. Il dit au verset 19, Dieu m'a jeté dans la boue, je ressemble à la poussière et à la cendre, je crie vers toi et tu ne me réponds pas, je me tiens debout, tu me lances ton regard, tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main, tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'écrases au bruit de la tempête, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Perception que Job a maintenant de Dieu, c'est un Dieu en colère, c'est un Dieu qui ne pardonne pas, c'est un Dieu qui en devient cruel et qui n'a d'autre projet que de conduire Job à la mort et à la fosse. Frères et sœurs, il est tout à fait possible que dans nos souffrances, dans nos problèmes, dans nos désespoirs, on en vienne à une vision de Dieu faussée. Un Dieu de colère, un Dieu cruel, un Dieu qui n'a pas de projet autre que notre enfermement cerné de toutes parts. Et c'est avec tout ça que Job regrette d'être né et attend la mort et souhaiterait mourir. Et il dit, et là finalement, je suis malade, je suis comme un chien. Mais le pire, c'est que je meurs même pas. C'est un texte précieux pour nous. C'est un texte précieux pour nous que de savoir que la souffrance peut nous emmener vraiment dans les méandres intérieurs profonds au point d'avoir des pensées de mort. Ça a été le cas de Job. Ça a été le cas du prophète Élie. Et ça peut être notre cas. Et nous voyons que Dieu ne fera pas de reproche à Job à propos de ce désespoir, à propos de ce tourment intérieur que Job a crié. C'était un passage nécessaire. c'est peut-être le nôtre. Et nous voulons voir maintenant l'importance que nous pouvons maintenant avoir auprès de ceux qui souffrent. Nous avons vu les trois amis auprès de Job. Ils sont là au départ pour l'entourer. Et lorsque quelqu'un souffre et dans le désespoir et commence à broyer du noir, souvent il se coupe des autres et puis les autres se coupent de lui. En Job 19, il exprime justement cette solitude. Job 19, verset 13. Job 19, 13. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Job vit vraiment une solitude affective. Et même avec sa femme, le fait qu'il ait tout perdu, son tourment intérieur, sa dépression, il dit je sens bien que mon humeur est à charge à ma femme. Même là, c'est tendu entre nous parce que ça l'insupporte, parce que ça l'agace, parce que ça lui est à charge. Eh bien, nous avons besoin, nous, de faire ce que le Seigneur nous dit, c'est-à-dire de nous épauler les uns les autres, de nous supporter, c'est-à-dire d'être un support les uns pour les autres. Et il s'agit déjà de faire attention à certains réflexes peut-être que nous avons lorsque quelqu'un traverse le malheur. Job l'exprime au chapitre 12. Job 12, verset 5. Il dit « Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. » Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. À celui dont le pied chancelle est réservé, le mépris. Et là, Job dit en fait, les gens heureux, ils ont une tendance à mépriser ceux qui sont dans le malheur. Et peut-être on dit, c'est de sa faute, il est malheureux, mais bon, faut voir comment il construit sa vie, faut voir les choix qu'il fait, faut voir, il a qu'à se relever un peu, il y a un moment, faut se mettre un coup de pied au derrière, et puis voilà, faut se prendre en main, hein, quoi. Donc, s'il est malheureux, c'est qu'il l'a bien cherché, c'est qu'il veut bien le rester. D'ailleurs, il doit y trouver des bénéfices secondaires, ce qui est le cas. Et puis terminé, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Écoute, t'as se bouger un peu, c'est bon, quoi. On a un peu une tendance à réagir comme ça. Job 6, verset 21, il s'adresse encore à ses amis, qui l'accable finalement, et Job 6, verset 21, il leur dit « Ainsi vous êtes comme si vous n'existiez pas en tant qu'ami, vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. » Effectivement, il y a aussi, au-delà du mépris et du jugement, il y a aussi le fait que l'angoisse des autres nous fait peur et nous fait horreur. Comme disait Job, il ne voulait pas que ses yeux voient le malheur. Et parfois, le fait de voir le malheur chez les autres, quelque part, nous fait peur aussi, nous fait un peu horreur. et quelque part on s'éloigne. Peut-être même on se dit oui, mais oui, je sais qu'il souffre, mais il ne fait pas des choix spirituels qui sont bons, il s'éloigne du Seigneur. En Job 6, au verset 14, il dit ceci à ses amis, Job 6, 14, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Et effectivement, le tourment peut être tel qu'on en vient à une fausse conception de Dieu, un Dieu colère, un Dieu cruel, et ce Dieu-là, ben oui, on n'a pas envie de marcher à ses côtés. Et peut-être qu'effectivement, on s'éloigne du Seigneur. Il dit, mais celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Et là, ça nous amène à l'importance d'être proche de ceux qui souffrent. Et on a évoqué le suicide et les tentatives de suicide. Souvent, les personnes qui ont des pensées comme cela souffrent parce qu'elles ont le sentiment de ne compter pour personne et que si elles disparaissaient, elles ne manqueraient à personne. Parce que finalement, à tort ou à raison, elles concluent que personne ne s'intéresse réellement et profondément à elles, qu'elles ne sont pas réellement et profondément aimées et qu'elles comptent et qu'elles ont de la valeur pour quelqu'un. Alors, c'est important pour nous, eh bien, de nous aimer les uns les autres, de nous soucier les uns des autres. Et c'est ça la famille. Romains 12, verset 15 dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Là, ce sont, c'est pas ce que les trois amis de Job font, ils ne pleurent pas avec lui. Et nous avons besoin dans l'Église de cultiver une relation attentionnée et en particulier envers les gens où quelque part la devise des heureux c'est au malheur le mépris. On aurait envie d'un peu de les juger, un peu d'être dur, un peu d'être un peu cinglant quelque part, un peu dire ouais voilà. Telle personne, c'est bon, quoi. Justement, une relation attentionnée qui se soucie d'eux, qui investit du temps, qui parle avec eux, pour qu'elles se sentent aimées et qu'elles comptent pour quelqu'un. C'est important. Pour réconforter. Réconforter, c'est pas trouver des tas de choses à dire qui explique la situation et qui donne des perspectives et des issues. C'est simplement se tenir à côté, pleurer avec ceux qui pleurent. En Galates 6, verset 2, il nous est dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». C'est aussi soutenir mon frère, ma sœur, en allégeant sa charge. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que quelqu'un qui est dans la souffrance et qui lutte avec des pensées même désespérées, ben c'est précieux pour lui quand on peut, de manière très concrète et pratique, dans la vie de tous les jours et du quotidien, alléger d'une manière ou d'une autre par un service qu'on rend, par une aide qu'on apporte. C'est une accalmie qu'on apporte. Et puis, nous avons besoin de découvrir toujours plus combien nous sommes aimés. Nous sommes aimés de Dieu. Tout à l'heure, Jean-Denis a choisi 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Dieu nous aime personnellement, nous sommes individuellement précieux et attachants pour lui. Et même s'il n'y avait eu que moi à sauver, eh bien il aurait donné sa vie pour me sauver. En 1 Jean 4, au verset 16, nous lisons même qu'il nous a adoptés. Vous rendez compte, le Seigneur m'a connu, il vous a connu, il a dit, je vais l'adopter. Moi, je veux l'adopter. 1 Jean 4, au verset 16. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Son amour pour nous. Et l'adoption, nous la voyons en Éphésiens 1, au verset 5. Éphésiens 1, verset 5. Nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Oui, le Seigneur l'a voulu, ça lui faisait plaisir de le faire, de nous adopter dans son amour. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de savoir, de connaître, d'en être imprégné. J'ai un Dieu qui m'aime, qui a donné sa vie pour moi, qui m'a adopté pour que j'aie un papa. Je ne suis pas seul et je compte infiniment pour Dieu. Non seulement ça, mais parfois on se dit, si ma vie cessait, je manquerai à personne. Et puis de toute façon, ma vie, elle est inutile. C'est exactement le contraire que Dieu nous dit. Nous avons un don spécial que Dieu nous a donné. Et chacun d'entre nous, eh bien, il a vraiment un don. Et ce don-là fait de lui quelqu'un d'utile et de compétent pour les autres. Et si nous venions à disparaître, nous manquerions aux autres. En Éphésiens 2, verset 10, Dieu nous dit qu'il nous a créés à dessein, il a un projet, il l'a voulu, il ne l'a pas fait par hasard ou par erreur. Nous ne sommes pas une erreur. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le Seigneur a un programme de bonnes choses en bénédiction pour les autres autour de nous. Et en 1 Pierre 4, verset 10, nous parle de cela, de ce don. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et peut-être qu'il arrive qu'on se dise, mais moi, de toute façon, je ne sais rien faire, je suis inutile, je ne vaux rien, ma vie, elle est nulle. Et après telle épreuve et telle chose, de toute façon, je n'ai plus rien à espérer de cette vie. Et de toute façon, les gens autour de moi n'ont pas besoin de moi et d'ailleurs ne s'intéressent pas à moi. Le Seigneur nous dit, moi je m'intéresse à toi, moi je t'aime d'un amour éternel et tu es utile. Je t'ai créé pour que tu sois utile autour de toi, pour que ta vie ait un sens pour les autres. Et je t'ai fait un don spécial. Je t'ai fait un don pour que tu puisses le mettre au service des autres et être compétent pour les autres. Alors terminons par quelques versets d'encouragement. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et bien sûr, ce verset peut se traduire autant par épreuve que par tentation, c'est le même mot. Qu'on ne soit pas tenté au-delà de nos forces et nous reparlions de cette victoire à avoir pour ne pas tout laisser tomber, baisser les bras. Et on se souvient de cette parole de sagesse d'Éliu qui dit à Job, garde-toi de te tourner vers le mal car la souffrance t'y dispose. Allez, l'épreuve et la tentation. Dieu qui est fidèle permettra pas que tu sois tenté et éprouvé au-delà de tes forces. Et puis, il y a un mystère et un miracle que nous trouvons en Romains 5. Parce que je ne vais pas vous dire ce matin que Dieu, comme il l'a fait pour Job, va vous redonner beaucoup plus de richesses, beaucoup plus d'enfants, ou autant, enfin, redonner tout ce qu'on a perdu. Il l'a fait pour Job, il peut le faire pour nous. Mais le miracle de l'espérance ne réside pas en cela. Elle va bien plus loin. Et en Romains 5, nous lisons bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Job a eu la victoire, et la victoire lui a ouvert l'espérance. Nous avons en Jésus-Christ cette promesse d'une espérance qui ne trompe point. Et il ne trompe point parce que Dieu répand dans nos cœurs son amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Alors que nous puissions, frères et sœurs, ne pas baisser les bras, c'est normal que nous puissions vivre, traverser des déserts au point de désirer la mort, d'y penser, comme Job. Ne nous culpabilisons pas pour cela, mais trouvons la porte d'espérance qui est en Jésus-Christ. Et soyons dans l'Église des hommes et des femmes qui sachent être différents des trois amis de Job et qui sachent pleurer avec ceux qui pleurent, qui sachent donner de la valeur à l'autre qu'il sache lui faire comprendre qu'il compte et qu'on l'aime et qu'il est utile. Prions. Seigneur, merci pour toutes ces paroles de Job, toute cette expérience intérieure qu'il a vécue et qui nous enseigne, qui fait écho pour nous. Tu as permis que ton serviteur fidèle et droit traverse cette vallée de la mort, Seigneur. Pour tous ceux qui, après lui, la traverseraient également. Seigneur, tu es celui qui ne veut pas nous laisser dans cette vallée de la mort. Mais nous en faire sortir. Te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui, peut-être en ce moment, sont dans cette vallée. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher d'eux et à être envers eux des amis qui consolent, qui sont proches, qui comprennent, qui épaulent, qui soutiennent. Plutôt que de ceux qui nous reculons parce que leur angoisse nous fait horreur ou qu'on méprise le malheur. Aide-nous à juger en nous-mêmes ces dispositions d'esprit quand nous les avons. Seigneur, nous ne savons pas ce qui pourra nous arriver demain et peut-être que comme Job, à qui tout réussissait et qui pensait mourir et ainsi finir couler des jours heureux dans son lit à l'abri de tout malheur, tout d'un coup, les catastrophes se sont abattues. Peut-être ça sera le cas pour nous, Seigneur. Et nous voulons dès aujourd'hui apprendre qui tu es, croire profondément et expérimenter que tu n'es pas un Dieu qui nous pourchasse avec des projets de mort pour nous et qui devient cruel juste parce que tu as fait le projet caché dans ton cœur de nous détruire. Non. Et tu es un Dieu qui a des projets parfois qui nous dépassent, comme il dépassait Job, mais qui sont toujours empreints de ton amour, de ta grâce, de ta bienveillance. Pour nous faire aller de l'avant et pour nous faire découvrir qu'il y a davantage, davantage que cette vie qu'on chérit, que cette vie qu'on choisit, mais qui est sans doute finalement pas si riche que cela. Et tu veux nous faire découvrir de plus grandes richesses et de plus grands trésors. Seigneur, toi-même, tu es passé par la souffrance, tu es venu sur cette terre, tu as souffert, tu nous as montré le modèle, le chemin. Tu ne t'es pas soustrait à cela. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, que tu as emprunté un chemin que tu sais que nous allons emprunter, mais tu l'as emprunté pour nous, avant nous, avec nous. Et nous pouvons t'y suivre avec confiance, en tenant ta main et en comptant sur ta fidélité, parce que tu es un Dieu fidèle. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen.